Utopode 003, 14 avril 2007, La fin du monde de Xavier Montméjean, deuxième partie. Attention, le contenu de l'émission d'aujourd'hui est réservé à un public averti. Nous le déconseillons aux jeunes enfants et aux âmes sensibles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 3 d'Utopode, podcast francophone des littératures de l'imaginaire. Je suis Lucas Moreno, coproducteur de ce podcast avec Marc Tiefenauer. Le principe de notre émission est de proposer à chaque épisode une lecture de nouvelles francophones de science-fiction, de fantastique, de fantasy ou d'un genre littéraire apparenté. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site www.utopod.com. Dans notre dernier épisode, nous vous avons livré la première partie de La fin du monde, un texte de Xavier Montméjean. Nous vous livrons aujourd'hui sa conclusion. Le texte est lu par Rita Gay. Vous trouverez toutes les informations relatives à la nouvelle, à son auteur et à sa lectrice, dans l'introduction de notre dernière émission, mais aussi sur notre site, dans l'article qui lui est consacré. Et maintenant, servez-vous un bon verre de saké poivré et place à la littérature.
La fin du monde de Xavier Montméjean, deuxième et dernière partie. Le volontaire l'attendait chez lui, en pleine conversation avec Caroline. Pour la première fois depuis des années, son épouse paraissait détendue, avec raison, puisqu'elle n'était plus de la partie. La communion était une offrande faite à tous les hommes, un don gratuit, sans contrepartie. Avant de s'éclipser, Caroline fit les présentations. Paul se dirigea vers le bar. Voulez-vous boire quelque chose? Je peux? Nathan Boyle était jeune, grand et maigre. Le cuisinier en prit bonne note. Cela ne peut nuire à la saveur. C'est que j'ignore à quelle sauce je vais être mangée. Moi aussi, il est encore trop tôt pour le savoir. Nous devons d'abord chercher à nous connaître. Paul le laissa prendre ses aises avant de procéder à l'interrogatoire. Avez-vous subi des opérations? Non. Pas de cicatrices qui pourraient nuire à l'esthétique? Les fonctionnaires des Nations Unies me l'ont déjà demandé. Maladie? La rougeole quand j'étais petit. Le cuisinier biffa une case sur son questionnaire. Allergie? Antécédents familiaux? Rien de la sorte. Parfait. Il faudra aussi m'indiquer vos préférences sexuelles, nature et fréquence de vos rapports. Nathan Boyle se tassa dans son siège. C'est assez indiscret. Vous êtes dorénavant un homme public, monsieur Boyle, et je dois en tenir compte pour la viande. Boyle lissa son front dégarni. Pour vous aussi, ce doit être nouveau. Je veux dire, discuter avec votre futur plat. Pas mon plat. Nous sommes tous deux l'instrument du sacrifice. Servir la communauté. Précisément, Nathan, la servir de notre mieux. Boyle lui avait donné rendez-vous pour le lendemain. Il l'attendait à Coney Island, en bout d'embarcadère. Paul Venn s'engagea sur le ponton, tandis que l'équipe de chimistes affectée aux préparatifs demeurait en retrait. S'il avait besoin d'eux, le cuisinier pourrait les contacter par micro. Luttant contre les embruns, Paul rejoignit son partenaire qui patientait sous la pergola. Le béton de la structure était fissuré par endroits. Les deux hommes se serrèrent la main. « Vous souhaitiez me connaître, Paul. Tout a commencé ici. » Nathan Boyle tendit un journal plié en direction de la grande roue. Ils s'engagèrent dans le parc d'attractions. « Mon père m'emmenait au Luna Park chaque dimanche. » Les baraquements de planches disjointes étaient abandonnés et les manèges rouillés, mais le volontaire ne semblait pas s'en préoccuper. Il souriait, à l'évocation des souvenirs d'autrefois. « Qu'aviez-vous l'habitude de faire, Nathan ?»« Oh, toutes ces choses apparemment sans importance qui unissent un père à son fils, les montagnes russes, du tir à la carabine. Mon paternel était très doué pour le tir. » Paul redressa le col de son pardessus. « Il fait froid. Toujours en cette période de l'année, c'est pourquoi on finissait par prendre quelque chose de chaud. Boisson ou aliment? Des hot-dogs. Ceux d'Enzo. Le vieux tenait une roulotte derrière la ménagerie. Oignons et réfort, les meilleurs du pays. » Leur conversation était enregistrée. Et parfois, je croquais une pomme d'amour. Faite par Enzo ? Nathan rit de bon cœur. Non, celle de la grosse Molly, une Irlandaise qui tirait aussi les cartes. L'équipe de chimistes consignait la moindre information. Ils tenteraient plus tard de reconstituer les saveurs. « Regardez, Paul, je crois que ce délit est ouvert. » Ils pénétrèrent dans l'établissement. Paul Venn observa la décoration. Des nasses suspendues au plafond, fichées de coquillages et d'hippocampes, et quelques vieilles plaques Dr Pepper en acier placées au-dessus des banquettes recouvertes de moleskine. Personne ne prenait la peine de nettoyer le sol, couvert de papier gras et d'écorce de cacahuètes. Ils s'assirent à une table scellée au mur. Nathan Boyle passa la commande. « Puis-je vous poser une question ?» Le propriétaire leur servit deux expressos dans des gobelets isothermes. « Je vous en prie, Nathan. »«
Nous sommes tous deux Américains. Est-ce une coïncidence ?»«
Non. Les organisateurs encouragent ce genre de situation. »«
Dans quel but ?»«
Favoriser la réussite. » Il pense qu'un entremetteur est davantage à l'aise avec des ingrédients locaux.
Mais vous cuisinerez pour le monde?
Exact. J'ai cependant le choix de ma base.
C'est bien.
Paul ouvrit son gobelet. L'arôme exquis semblait incongru en ce lieu. Le grand restaurateur nourrissait peut-être des préjugés. La communion l'aiderait à s'en débarrasser.
« Moi aussi, j'ai une question. Pourquoi vous êtes reporté volontaire ?»
Nathan prit le temps de répondre.
« Je pourrais vous dire pour l'argent, mais ce ne serait pas vrai. Bien sûr, je suis content que ma famille soit dorénavant à l'abri du besoin.
Vous êtes marié ?» Paul Venn n'y avait guère songé jusqu'alors.
« Oui,
et j'ai une fille. » Nathan Boyle tira une photographie de son portefeuille. Une jeune femme tenant un bébé souriait à l'objectif. « Et cela ne vous coûte pas ?»«
Moins qu'à eux. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Avant, les gouvernements envoyaient des millions d'hommes à la mort. Aujourd'hui, on ne demande qu'un volontaire. Et puis, comme tout le monde, j'aimerais que l'on m'apprécie. »
Boyle laissa au cuisinier le soin de régler la note. Paul Venn déposa dans une fiole un prélèvement de café et rafla les sachets de sucre. Puis il gagna la sortie. Il était étendu sur le carrelage froid de sa cuisine laboratoire, entouré de centaines de feuillets. Paul Venn avait démembré ses précieux manuels, annoté au feutre les pages d'édition rares. Son intellect s'était nourri de quantités d'informations qu'il devait maintenant oublier pour faire parler son cœur. La communion obéissait à deux principes. Associer en quelques préparations les influences culinaires des différentes cultures représentées aux Nations Unies et témoigner de la vie d'un homme. Paul devait donc trouver ce délicat équilibre entre la variété des aspirations collectives et la banalité d'une existence singulière. S'il y parvenait, les membres du Conseil de sécurité entreraient véritablement en communion. À travers les saveurs, chacun redécouvrirait l'importance du particulier dans l'intérêt général. L'humanité est une notion trop abstraite qu'il convient d'incarner. En consommant la chair, chaque responsable politique assimilerait les joies et les peines qui font le lot du commun. Un retour à l'essentiel. Aux destinées passagères dont les actions imperceptibles font le mouvement de l'histoire. Photographe Nathan Boyle vivait de son regard. Paul devrait en tenir compte. Il avait une fille en bas âge, nourrie au sein. Le cuisinier s'était fait livrer un flacon de lait maternel par Federal Express. Nathan offrirait aux grands de ce monde ce qu'il avait de plus cher. Prenez, car ceci est ce que je suis. Je pensais à quelque chose dans ce genre. Le premier assistant de l'entremetteur détacha la coquille d'une longe de veau cuite qu'il allongea sur une casserole plate. Puis il passa au tamis la parure de champignons.
Un commis lui tendait un roux brun mouillé de vinaigre, quand Paul le retint par le bras. « Laissez tomber, nous n'arriverons à rien. »«
Qu'est-ce qui ne va pas cette fois-ci ?»«
Les couleurs, elles sont ternes. » Il s'échinait à simuler la communion.
Campant sur place, les collaborateurs de Paul Venn se relayaient nuit et jour pour un résultat décevant. Paul, lui, ne dormait pas. D'une voix blanche, l'assistant s'adressa à lui.
« Monsieur, êtes-vous sûr de l'éclairage ?»«
Oui, les techniciens des Nations Unies l'ont réglé ce matin. Il correspond exactement à celui de l'amphithéâtre où se déroulera le repas. Dans ce cas... » Le rôtisseur fit signe aux marmitons de débarrasser les fourneaux. L'adolescent jeta la préparation encore chaude. Trois conteneurs étaient emplis de nourriture gâchée. L'entremetteur caressa son menton mal rasé.
« Pause. On reprend dans un quart d'heure. Évitez de fumer à l'intérieur. »
Il se dirigea vers la salle du restaurant où l'attendait une pile de courriers négligés. Paul ne souhaitait pas l'ouvrir, subir son influence. Télégrammes d'encouragement aux factures impayées ne feraient que le distraire, le détourner de son grand œuvre. Une enveloppe crème, déposée à part, attira pourtant son attention. Adressée à son nom d'une écriture sèche, celle de François Gilson. Paul Venn prit connaissance du message. Le restaurateur l'encourageait de ses vœux. Un employé du chef français avait joint une coupure de presse au billet. Peu après son passage à Charlestown, Gilson s'était donné la mort. L'entremetteur accueillit la nouvelle avec détachement. Il n'était plus l'élève du français ou l'époux de Caroline. Simplement, l'officiant dont dépendait la communion. Il changea de tablier et retourna en cuisine. Paul Venn se présenta au UN Building 2 heures avant le début de la cérémonie. Un responsable du protocole lui fit visiter la salle du Conseil de sécurité. Le cuisinier découvrait l'endroit pour la première fois. Jusqu'alors, il avait simplement visionné des enregistrements vidéo pour préserver un minimum de spontanéité. Tandis qu'un technicien vérifiait l'acoustique, Paul s'entretint avec l'anesthésiste et le chirurgien qui l'assisterait durant la découpe. Puis il gagna le centre de l'amphithéâtre. L'espace de travail était délimité par 8 chariots d'hôpital disposés en rectangle, qu'entourait un rang serré de caméras montées sur trépied. Chaque geste de l'entremetteur serait démultiplié sur de larges écrans suspendus au plafond. Les diplomates placés en retrait pouvant de cette façon suivre la confection du repas. Il déposa ses instruments sur des plateaux en fer, selon un ordre personnel et immuable. Comme tous les grands maîtres, Paul Venn cultivait certaines manies. L'éclairagiste alluma les 2 énormes projecteurs qui surplombaient les fourneaux. L'entremetteur exigea un filtre optique au-dessus de la cuisinière, afin de ne pas fatiguer ses yeux. La communion s'étendant sur 3 jours, il comptait ménager ses forces. Ses collaborateurs le rejoignirent en début de soirée. Impressionné, il parlait à l'économie, évitant tout échange inutile. Assistés par des officiels, les membres de l'équipe enfilèrent blouses et masques et lacèrent de confortables chaussures de sport. Paul s'habilla en dernier. Il coiffa sa toque, indiquant qu'il était prêt. Au signal, 2 huissiers rabattirent les vantaux de la porte principale. Les membres permanents du Conseil de sécurité entrèrent les premiers, suivis par un cortège de diplomates. Ils gagnèrent en silence leurs fauteuils réservés. Une armée de traducteurs pénétra dans les cabines transparentes, reléguées en hauteur. Les opérateurs vidéo, répartis en unités mobiles, se placèrent dans les allées, et les caméramens, affectés au bloc opératoire, entreprirent de faire la mise au point. Pour l'instant, les écrans n'affichaient que le blanc immaculé des linges déployés sur la table. Paul Venn régla la fourche de son micro. L'ingénieur du son effectua la balance. Le responsable du protocole interrogea chaque participant à la cérémonie. Tous donnèrent leur accord. Ils pouvaient commencer. Nathan Boyle apparut, encadré par des policiers militaires en uniforme de parade. Il était sanglé sur un lit muni de roulettes. Les agents le poussèrent jusqu'à l'espace de travail. Ils redressèrent sa couche afin que Nathan soit en station verticale.
Il pourrait ainsi commenter la préparation des plats. L'anesthésiste disposa ensuite les potences de chaque côté du lit. Tout en vérifiant les poches de sérum et de plasma, il échangea à voix basse quelques mots avec Boyle. Celui-ci sourit. À travers son micro, il se déclara conscient et volontaire. Alors, le représentant chinois annonça officiellement le début de la communion. Paul Venn prit le relais. À compter de cet instant, il était l'unique maître de cérémonie. Assisté par les nations, la Chine s'apprête à diriger l'ordre du monde pendant 4 ans. Pour lui rendre hommage, nous procéderons au rituel du Linchi. Les antiques traditions en faisaient une torture, le supplice des 10 000 morceaux. Mais ce soir, chacun devra y voir un sacrifice débarrassé de toute cruauté, une offrande d'amour faite par un homme à l'humanité. Sa voix était rauque, nouée par l'émotion. Il devait se reprendre. Paul Venn s'approcha de Nathan. Il lui saisit la main et pressa sa paume, en signe d'encouragement. Puis il lui trancha un doigt. L'auriculaire, un modeste présent. Paul le fit revenir sur feu vif pour le servir à part, enroulé dans une feuille de vigne et nappé de sauce piquante. Contournant le cartilage, il détacha ensuite l'annulaire. Un marmiton ôta l'alliance pour la présenter aux caméras, Nathan Boyle faisant don de son mariage à la communauté. Des années de bonheur, un bonheur parfois entaché de disputes, qu'il livrait à l'appréciation universelle. Un diplomate russe leva son verre de vin résiné pour rendre hommage à la famille. Paul Venn incisa le majeur, interdisant tout geste obscène à Nathan. Le doigt roula sur le plateau, emportant avec lui fureur ou jalousie. L'index suivit, tendu vers la direction à prendre, un avenir radieux auquel aspiraient tous les présents. Le pouce marquait l'arrêt des guerres. Paul le recueillit précieusement. Restait un point, symbole d'une force bien employée. L'assemblée fit vœu en silence d'en disposer au mieux. L'entremetteur présenta ses membres à Nathan. Le jeune homme inclina la tête. Il s'en remettait au cuisinier. Paul déversa un lit de sable sur le fond d'une marmite en terre, puis il y coucha les doigts. Le plat cuirait toute la nuit à la façon d'une tafina juive pour être servi le lendemain matin, accompagné de pois chiches trempés dans du vin et parfumés à la cannelle. Assisté du chirurgien, Paul Venn détacha l'avant-bras de Nathan Boyle à hauteur du coude. Le jeune homme fut secoué par un violent tremblement. Pour contrer le choc opératoire, l'anesthésiste modifia le mélange fixé à la potence en prenant toutefois soin de conserver une certaine sensibilité à la chair. Offrir, c'est souffrir un peu. Une assistante épongea le front du volontaire qui réclama à boire. On lui tendit un gobelet en carton. À travers la paille coudée, Nathan aspira une goulée de boisson vitaminée. Il se déclara prêt à poursuivre. L'entremetteur dépouilla la pièce de viande et la coupa en morceaux qu'il enroba d'un mélange de salpêtre et de cassonade. Il y joignit quelques oignons non pelés et du céleri. Le tout devant cuire jusqu'à ce que la graisse remonte. Avant d'être écumé et peut-être fumé, Paul hésitait encore. Le bras d'un homme est son ardeur, c'est pourquoi il avait souhaité le préparer en suivant la recette du civet de lion, comme on le sert à Nairobi. Trop d'apprêt tournerait à la préciosité, et le cuisinier souhaitait conserver une certaine rudesse. Il s'en confia à Nathan, qui l'approuva. Relayé par les traducteurs, l'assemblée de diplomates salua l'intention. Paul marqua une pause, laissant à ses collaborateurs le soin de cuisiner l'autre bras des doigts à l'épaule en suivant les directives du chef à la lettre. Il devait surveiller les préparations qui cuisaient lentement ou refroidissaient à part. Guère convaincu par un glaçage, il bouscula son marmiton et rattrapa de justesse la composition. Personne ne s'avisa du drame. Il s'attaquait maintenant aux pieds. Au moyen d'une scie électrique de légiste, Polven détacha les membres inférieurs. Le sang fut recueilli dans une bassine pour être utilisé plus tard. Boyle tenait le coup. En le choisissant, les organisateurs ne s'étaient pas trompés. Le cuisinier comptait servir une soupe de pied à l'américaine, spécialité traditionnelle qu'il maîtrisait parfaitement. Il blanchit les pièces durant une heure pour finir de les cuire dans du bouillon, faisant revenir au beurre quelques dés de carottes, navets, oignons et racines de céleri. Il les mouilla avec le jus de cuisson. Puis il lia la soupe avec du cornstarch, de la fécule de maïs délayée au madère et vin blanc. Il mêla l'ensemble avec les pieds désossés et coupés, ajoutant deux bonnes cuillerées d'orge perlée et une purée de tomates. L'arôme manqua de faire défaillir le représentant italien placé face au plan de travail. Les drogues assommaient Nathan Boyle. L'anesthésiste lui fit reprendre conscience en lui injectant un cocktail d'amphétamine. Cela nuirait à la chair, durcirait les tissus, Paul en était persuadé. Il devait donc travailler en surface. L'entremetteur découpa les tétons du volontaire et les présenta couchés sur un linge face aux caméras, comme deux crevettes roses et délicates. Le cuisinier pouvait bien sûr les préparer en croquettes, noyées dans une béchamel, mais cela aurait été dommage. Aussi se contenta-t-il de les faire revenir au cidre sec, présenté sur une tranche de pain croustillant nappé de beurre glacé. Ils emportèrent l'adhésion. Lorsque l'organisme de Nathan recouvra son élasticité, le cuisinier tenta une amputation lourde. Les loupes, fixées au verre, étant embuées, Polven ôta ses lunettes et se lança dans la confection d'un mets qui n'exigeait pas de finesse. Une cuisse au lait, d'après la recette de Baleine, célèbre gastronome français. Après avoir nettoyé la viande en appliquant une couche de cire sur les poils, il l'embrocha. Quand la cuisse fut prête, l'entremetteur la nappa de lait maternel caramélisé. En un plat rustique, mais sincère, le chef cuisinier associait l'origine paysanne de Nathan, né dans le Wisconsin, et son autorité paternelle. Campé sur ses jambes, cuisse ferme, Boyle veillait sur sa famille, particulièrement son bébé nourri au sein. Par-delà la mort, il protégerait les siens. Une vague d'émotion emporta l'auditoire. Tous honoraient ses valeurs universelles. L'instant était solennel. La virilité d'un homme est une pièce de qualité. Condition d'immortalité, elle marque la continuité de l'espèce à travers les générations. Paul avait longtemps hésité avant de fixer son choix sur une recette japonaise, l'anguille kabayaki. Au moyen d'une grosse seringue, Paul introduisit dans le sexe une forte dose de saké. Puis il trancha le membre, le saigna et l'ouvrit sur toute la longueur. Il le fit cuire à la vapeur pour ensuite le griller sur un feu de bois vert. Les diplomates consommèrent le pénis avec une sauce chaud-hue, préalablement sucrée et amidonnée à l'eau de riz. Nathan Boyle appartenait maintenant à chaque peuple. Restaient les yeux. Durant les 3 jours qu'exige le rituel du Linchi, Nathan avait assisté à la préparation de ses organes, présentés face à lui comme des corps étrangers, et observé les représentants des nations se repaître de sa chair. Il devait emporter cette image dans la mort, comme un présent en retour. De plus, Nathan était photographe. Ses yeux lui revenaient. Polven préleva les globes oculaires, regards marqués par la communion, et les fit cuire, durs comme des œufs. Trempant l'un d'eux dans du vinaigre, à la mode afghane, il l'introduisit dans la bouche de Nathan. « Merci, Paul. » Le jeune homme mâchait avec difficulté. Ne parlez pas la bouche pleine. L'entremetteur tentait de le distraire, d'adoucir ses derniers instants. Nathan grimaça un sourire. « La communion, est-ce une réussite ?» Polven plaça le second globe sur la langue de Nathan Boyle. N'ayez aucune crainte et digérez en paix. » Une formule rituelle qui ne correspondait à rien. Les aliments tomberaient dans une poche plastique, fixée à la place de l'estomac. On l'avait farcie d'orge et d'oignons à la mode aguiche quelques heures plus tôt. Le volontaire déglutit et inclina la tête. D'un seul mouvement, l'assemblée de diplomates se redressa. Chaque représentant pressa la main de son voisin. L'entremetteur s'empara d'un large couteau de boucher. Il recula, prit son élan et d'un revers de lame décapita Nathan Boll. Tout était consommé. Paul Venn regagna son appartement dans une voiture officielle. La communion était un succès. Nathan avait nourri pour 4 ans les espoirs de l'humanité et calmé la faim du monde. Quant à lui, il n'était plus rien. Certainement pas l'entremetteur, puisque dorénavant on lui interdisait de pratiquer. Paul ressentait un vide qu'il lui faudrait bien combler. Peut-être en reprenant une vie normale avec Caroline. Avoir des enfants, jouir d'un bonheur simple en suivant l'exemple universel de Nathan Boyle. À l'angle de Broadway et de la 42e rue, l'ex-grand chef cuisinier observa un petit garçon en train d'engouffrer un beignet. Pâte grasse, mais crème onctueuse. Il commençait déjà à s'ennuyer.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans notre prochain numéro où nous vous proposerons Les Noces d'Orage, une nouvelle de fantasy de Jonas Lenn. N'oubliez pas de visiter notre site www.utopod.com pour nous écrire, laisser un commentaire à propos de l'un ou l'autre de nos épisodes ou en apprendre davantage sur l'émission. Utopod est un projet à but non lucratif, ses producteurs travaillent de façon bénévole et comptent exclusivement sur les dons et le parrainage pour les frais techniques et éditoriaux de base, notamment la rémunération des auteurs que nous nous fixons comme but à court terme. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un don en cliquant sur l'icône Euro en pied de page dans notre site. Mais vous pouvez aussi vous abonner totalement gratuitement à l'émission, si ce n'est pas déjà fait, ou alors nous faire un peu de pub en parlant du projet autour de vous. Utopod est un podcast totalement indépendant qui veille soigneusement à la protection des droits de ses auteurs. Le contenu de ces émissions, ainsi que les textes qui y sont proposés, sont strictement soumis aux conditions d'utilisation de la licence Creative Commons. Paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. En clair, cela signifie que vous pouvez librement écouter et faire découvrir les épisodes d'Utopod tant que vous respectez 3 conditions. Ne jamais en modifier le contenu, ne jamais en faire une utilisation commerciale, toujours indiquer clairement la paternité et la source des émissions et des œuvres littéraires qui y sont lues. Voilà tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous bientôt pour le 4e numéro d'Utopod. Bye bye !